Chapitre 4. Oppositions diverses au dessein du duc, du pape et de l'évêque. 1513 à 1515. Plainte sur le libertinage des prêtres. Corruption des couvents. Représentations inutiles des magistrats. Arrivée de Bonnivard à Genève. Son esprit et sa bonne humeur. Mort de son oncle et les couleuvrines. Besançon Hugues paraît. Caractère de Charles III. Noces de Julien et de Philiberte. Une bulle donne Genève à la Savoie. Indignation et protestation des citoyens. Tristesse dans Genève. Décision contraire des cardinaux. Nouveau projet de Charles. L'opposition à l'évêque se montra de diverses manières et vint de divers côtés. Les magistrats, de jeunes et nouveaux défenseurs de l'indépendance, enfin, ce qu'on n'eût pas attendu, les cardinaux eux-mêmes contrecarrèrent le plan formé pour enlever à Genève son indépendance. L'opinion, cette reine du monde, comme on l'a appelée, passait aux prêtres la mondanité, mais non le libertinage. La débauche était entrée dans les mœurs de la papauté. L'Église du Moyen-Âge, institution extérieure et légale, se passait de la moralité de ses ministres et de ses membres. Le Dante et Michel-Ange placent en enfer des prêtres et des papes libertins ou empoisonneurs. Les crimes du prêtre, selon Rome, ne nuisent pas au caractère divin dont il est revêtu. On peut être le Saint-Père, Dieu même sur la terre, et un brigand. Au moment où la Réformation commença, il y avait dans l'Église romaine certaines croyances imposées, certaines hiérarchies, certains rites, certaines pratiques, mais de morale, il n'y en avait pas. Au contraire, tout cet échafaudage avait pour conséquence d'autoriser les chrétiens à s'en passer. La religion, je réserve les exceptions, n'était pas l'homme. C'était un cadavre vêtu d'habits magnifiques et par-dessous, rongé de vert. La Réformation allait rendre la vie à l'Église. Si le salut se trouve non dans une adhésion au pape et aux cardinaux, mais dans une communion intérieure, personnelle et vivante avec Dieu, un renouvellement du cœur est obligatoire. Ce fut dans la sphère de la morale que se montrèrent, à Genève, les premières tendances réformatrices. Au mois d'octobre 1513, les plaintes les plus vives retentirent dans le Conseil. Ouverture de guillemets. Qui doit donner au peuple l'exemple de la moralité si ce n'est les prêtres? Dirent de nobles citoyens. Or, nos chanoines et nos curés sont de bons vivants qui s'enivrent, qui entretiennent des femmes illégitimes, qui ont des bâtards au-dessus de tout le monde. Allez près des églises et des couvents, qui trouverez-vous? Des maisons infâmes, où ces bonnets carrés, ces frocs pointus se consolent du célibat que leur religion leur impose. Fermeture de guillemets. En effet, à côté du couvent des Cordeliers, de Rives, se trouvait une maison qui était en mauvaise odeur. Un jour, un vaurien, F. Maurier, alla chercher chez les révérends moines une femme qui habitait cette mauvaise maison et qui lui avait enlevée. Les jeunes gens de la ville l'accompagnèrent, découvrirent cette malheureuse dans une cellule et l'emmenèrent en faisant grand bruit. Les moines, attirés par le vacarme, parurent à leur porte ou dans les corridors, mais ils n'osèrent la retenir. Les camarades de Maurier la reconduisirent en triomphe et en accablant les religieux de leurs plaisanteries. Les Augustins de Notre-Dame de Grâce ne valaient pas mieux que les Franciscains de Rives, et les moines de Saint-Victor ne faisaient pas grand honneur à leur chef. Tout autour de leur couvent se trouvaient de petites maisons, où logeaient les hommes et les femmes qui profitaient de leurs débauches. Le mal était encore plus grand chez les dominicains de plein palais. Les syndics et les conseils durent chasser deux d'entre eux, le frère Marchepalu et le frère Nicolas, parce qu'on se livrait dans ce monastère à des vices abominables. Ces moines offraient même territoire aux débauches de la ville. Ils ouvraient, moyennant rétribution, les vastes jardins de leur monastère, situés entre les deux fleuves du Rhône et de l'Arve. Et là, de beaux ombrages servaient à cacher des rendez-vous immoraux et des orgies nocturnes. Nul n'avait dans Genève une réputation si mauvaise que les religieux. Ils étaient en grand renom, mais par leurs vices. En fait d'avarice, d'impureté, de crime, ils n'étaient rien dont on ne les crût capables. Ouverture de guillemets. Ce qu'un diable obstiné craindrait de faire, disait-on, un moine réprouvé et insolent l'accomplira sans hésiter. Fermeture de guillemets. Qu'attendre d'un clergé qui a pour chef des papes tels que Jean XXIII, Alexandre VI ou que cet Innocent VIII, qui, ayant 16 enfants illégitimes quand il ceignit la tiare, fut proclamé tout d'une voix le père du peuple romain. Le divorce entre la religion et la morale était complet. Tous les essais de réforme faits depuis des siècles par des ecclésiastiques pieux avaient échoué. Rien ne semblait pouvoir guérir ce mal invétéré, épidémique, affreux. Rien, si ce n'est Dieu et sa parole. Les magistrats de Genève résolurent pourtant d'essayer quelques réformes, et tout au moins de protester contre d'insupportables abominations. Le mardi 10 octobre, les syndics parurent encore devant le conseil épiscopal et y déposèrent leurs plaintes sur la conduite des prêtres. Mais qu'attendre du conseil d'un prélat qui portait lui-même, aux yeux de tous, les marques honteuses de ses infâmes débauches. On étouffa des plaintes qui compromettaient l'honneur du clergé, l'ambition du duc et la mitre de l'évêque. Toutefois, le coup était porté, l'effet moral demeura. Une pensée s'imprima dès lors dans les cœurs des hommes honnêtes. Ils reconnurent que quelque chose de nouveau était nécessaire pour sauver la religion, les mœurs et la liberté. Quelques-uns même se dirent que, puisque les réformes venues d'en bas n'y faisaient rien, il fallait une réforme venant du ciel. Ce fut au moment où le vent soufflait ainsi à l'indépendance et où le parti libéral voyait se multiplier ses défenseurs qu'arriva dans Genève un brillant jeune homme étincelant d'esprit, tout plein de Tite Live, de Cicéron, de Virgile. Les prêtres le recevaient très bien à cause de ses relations avec divers prélats, et les libéraux faisaient de même à cause de sa bonne humeur. Il devint bientôt le favori de tout le monde et le héros du moment. Il avait tant d'imagination, il savait si bien amuser son monde. Ce jeune homme n'était pas un esprit superficiel. Il est à nos yeux l'un des premiers écrivains français du commencement du XVIe siècle, mais il faut l'avouer, l'un des plus méconnus. François Bonnivard, c'était le nom de cet aimable lettré, avait au fond peu de foi, même peu de moralité. Mais il allait remplir dans Genève, par son libéralisme, ses lumières et ses mordantes satires, un rôle assez semblable à celui qu'Érasme joua dans la grande réformation. En sortant de la ville par la porte Saint-Antoine, on rencontrait presque aussitôt une église de forme ronde et tout à côté un monastère habité par des moines de Cluny, dont les mœurs, nous venons de le dire, n'étaient pas exemplaires. C'était le prieuré de Saint-Victor. Et c'est dans ces murs qu'eurent lieu beaucoup de conversations et de conférences qui préparèrent la réformation. Saint-Victor était un petit état, avec un petit territoire, dont le prieur était le prince souverain. Le 7 décembre 1514, Jean-Amé Bonnivard, alors prieur, était prêt de rendre l'âme, et à côté de son lit se trouvait son neveu, François, âgé de 21 ans, né à Seyssel, dont le père avait occupé un certain rang à la cour du duc Philibert de Savoie, et dont la mère était de la noble famille de Menton, appartenait à cette population de nobles et de gens d'église que les ducs de Savoie transplantaient à Genève pour efféminer les citoyens. Élevé à Turin, il y était devenu le bout en train d'une université. Et, apportant en tout lieu cette humeur joviale, il semblait devoir être un excellent appât pour attirer la jeunesse de la ville dans les filets de la Savoie. Mais il en fut tout autrement. Il se tourna vers la liberté. Pour le moment, il ne pensait qu'à son oncle, dont la fin semblait arriver. Il ne détournait pas de lui ses regards inquiets, car le vieux prieur était vivement agité sur son lit de mort. Naguère, dans un moment d'irritation, il avait fait couler 4 grandes couleuvrines aux frais de l'église pour assiéger dans son château situé au pied du mont Salève l'un de ses voisins, le seigneur de Véry. Le vieux Bonivard avait bien commis d'autres péchés, mais il s'en inquiétait peu en comparaison de celui-ci. Ses gros canons, acquis de ses revenus ecclésiastiques, dans le but de tuer des hommes et de battre en brèche le château d'un ancien ami, lui donnaient un affreux cauchemar. Dans son angoisse, il se tourna vers son neveu. Il avait trouvé un expédient, une œuvre méritoire, qui lui semblait propre à rendre la paix à sa conscience agitée. « François, dit-il à son neveu, écoute-moi bien. Tu connais ces pièces d'artillerie. Elles doivent être employées au service de Dieu. Je veux qu'un continent, après ma mort, on en fasse des cloches pour l'Église. » François le promit. Et le prieur satisfait mourut, laissant à son neveu la principauté, le couvent et les couleuvrines. Une vive sympathie avait bientôt uni Bertellier et Bonivard. Le premier avait plus d'énergie, le second plus de grâce. Mais ils appartenaient tous les deux à la génération nouvelle. Ils devinrent frères d'armes et se promirent de faire une guerre impitoyable à la superstition et à l'arbitraire. Ils se donnaient mutuellement des marques de leur affection, et Bonivard fut parrain de l'un des fils de Bertellier. Celui-ci ayant fait à son ami le jour même de la mort de l'oncle une visite de deuil, entendit de sa bouche l'histoire des couleuvrines. Ouverture de guillemets. « Quoi ? Dit-il. Fondre des canons pour en faire des cloches ? Nous vous donnerons autant de fonte qu'il vous en faudra pour vous faire une sonnerie dont le bruit vous rompra les oreilles. Mais les couleuvrines doivent rester couleuvrines. » Bonivard représenta que, selon les ordres de son oncle, les canons devaient être employés au service de l'Église. L'Église sera servie à double, reprit Bertellier. Il y aura cloche à Saint-Victor, qui est l'Église, et artillerie dans la ville, qui est la terre de l'Église. Il porta la chose devant le conseil, qui décréta tout ce que Bertellier demandait. Mais à peine le duc de Savoie l'eut-il appris qu'il réclama pour lui les canons du monastère. Le conseil des 50 fut assemblé pour discuter cette affaire, et Bertellier ne fut pas seul à soutenir les droits de la ville. Un jeune citoyen de 25 ans, d'un caractère doux et pourtant courageux, tranquille et pourtant actif, a mis tout ensemble de la loi et de la liberté, sans petitesse et sans arrogance, et qui portait dans son âme des forces intimes et puissantes, ne craignit pas d'engager la lutte entre Genève et le plus redoutable de ses voisins. Il s'appelait Besançon Hugues. Il venait de perdre son père et prenait alors sa place au soleil. Une pensée le dominait, maintenir l'indépendance de son pays, résister aux usurpations de la Savoie. Dût-il s'attirer la haine du duc? Au nom du peuple, dit-il, je m'oppose à ce qu'on remette cette artillerie à Son Altesse, la ville en a faute. Les quatre canons restèrent à Genève. Mais dès lors, Charles III regarda d'un œil courroucé Berthelier, Hugues et Bonnivard. Je le leur revaudrai, dit-il. Quand je lui fis la révérence après la mort de mon oncle, racontait Bonnivard, Son Altesse me fit le groin. Charles III, fils de Philippe sans terre, ne ressemblait guère à ce prince aventurier. Philippe, parvenu à un certain âge, s'était amendé, et après avoir eu plusieurs enfants naturels, il avait fini par épouser Marguerite de Bourbon, puis, devenu veuf, Claudine de Penthièvre ou de Bretagne. Et s'était assis en 1496 sur le trône de Piémont et de Savoie. Charles III, son fils du second lit, ressemblait plutôt à son grand-père le duc Louis. Il était comme lui, rangé mais faible, soumis à sa femme, et n'avait hérité de monsieur que ses accès de violence. Il n'avait pas une intelligence fort étendue. Ses conseillers, qui étaient fort habiles, y suppléaient. Une pensée unique semblait l'obséder, réunir Genève à la Savoie. C'était presque toute sa politique. Pour avoir Genève, il perdit ses états. Jamais la fable du chien dont parle Ésope n'a été moins une fable. Tout semblait, en 1515, favorable au dessein de ce prince. Le mariage de la jeune Philiberte, qui n'avait point été accompli en 1513, vu l'âge de la princesse, allait être célébré. L'évêque de Genève, qui était alors à Rome pour le concile de Latran, y appuierait la demande de son cousin, touchant la souveraineté temporelle. Les ministres de Charles, la cour, les nobles, les prêtres, tous poussaient à l'annexion de Genève. Cette ville n'était-elle pas le marché des provinces voisines de la Savoie? N'était-elle pas nécessaire à la défense stratégique du duché? Claude de Seyssel, fin diplomate, auteur de « La monarchie de France », grand contempteur de toute république, et qui fut bientôt nommé archevêque de Turin, ne cessait de répéter au duc que si Genève restait en son pays sans être de son pays, la Savoie courrait de grands dangers. Ouverture de guillemets. « Vraiment, disait Bonnivard en apprenant les instances de Seyssel, il n'est pas besoin qu'on pousse Son Altesse pour la faire courir. Elle a commencé par faire sonner le tambourin, et la voilà maintenant qui ouvre la danse. » Fermeture de guillemets. Mais le pape entrerait-il en danse? Livrerait-il Genève à la Savoie? C'était la question. Léon X aimait les richesses, les arts, les plaisirs et toutes les jouissances de la vie. Il se montrait généreux, libéral, même dissipateur, et ne se souciait pas beaucoup des affaires. Il avait préparé à Julien et à sa jeune épouse un palais magnifique dans la cité des papes et des Césars. Des fêtes d'un éclat inouï célébraient chaque jour l'union des Médicis avec la famille antique d'Humbert au Blanc Chemin. « Je n'épargnerai rien », avait dit Léon X. Et en effet, ces réjouissances lui coûtèrent la somme énorme de 15 000 ducats. Comment ce pontife, toujours occupé à dépouiller les autres pour enrichir et élever ses proches, compromettrait-il une alliance si glorieuse pour maintenir l'indépendance d'une ville inconnue placée dans les contrées sauvages des Alpes? D'ailleurs, la situation de Genève était inquiétante. Les institutions libres de la cité menaçaient la puissance temporelle de l'évêque, et celle-ci détruite, que deviendrait sa puissance spirituelle? Mais si le duc de Savoie y devenait prince souverain, Il abolirait les arrogantes libertés des bourgeois et sauverait ainsi la prérogative épiscopale. Cette histoire, qui était alors celle de Genève, avait été celle de la plupart des villes du Moyen Âge. Laurent de Médicis avait coutume de dire « Mon fils Julien est bon, mon fils Jean, Léon X, est fin, mon fils Pierre est fou. » Léon crut faire preuve de beaucoup de finesse en sacrifiant Genève à la gloire des Médicis et à l'ambition de la Savoie. Ouverture de guillemets. Le duc de Savoie, dit un historien catholique, profita de cette circonstance, le mariage, pour se faire accorder une bulle qui confirma le transport de la juridiction temporelle. Fermeture de guillemets. Charles III triomphait. Il avait atteint le but que ses prédécesseurs avaient poursuivi pendant des siècles. Il avait fait plus que Pierre, le petit Charlemagne, plus qu'Amédée le Grand. Il se croyait le héros de sa race. Ouverture de guillemets. Je suis seigneur souverain de Genève. Quant à la temporalité, disait-il à tous, je l'ai obtenue de notre Saint-Père le Pape moderne. Fermeture de guillemets. Mais que dirait-on à Genève? L'antique République baisserait-elle humblement la tête sous le joug des Savoyards? Toute la ville fut émue quand cette grande nouvelle y arriva. Berthelier, Bonivard, Hugues, Vandel, Bernard, les plus catholiques même d'entre les citoyens, indignés de cette usurpation, s'agitaient, s'entretenaient, s'en prenaient surtout au pontife. Ouverture de guillemets. La puissance des papes, disait-il, n'est pas sur les principautés, mais sur les péchés. C'est pour corriger les vices, et non pour être le maître des rois et des peuples qu'ils ont reçu des clés du royaume céleste. Fermeture de guillemets. Il y avait à Genève un très petit nombre de savants, Bonivard en était, qui ouvraient les livres poudreux de leur bibliothèque et y cherchaient des arguments contre la résolution papale. Saint Bernard, ne disait-il pas au pape Eugène, ouverture de guillemets, cultivez la vigne du Seigneur, en ôtez les mauvaises herbes, voilà votre œuvre. Vous avez besoin non d'un sceptre, mais d'un sarcloir. Fermeture de guillemets. Le 25 mai, une députation du Conseil se rendit vers l'évêque. Ouverture de guillemets. Monseigneur, lui dit le premier syndic, nous vous conjurons de laisser la communauté au même état auquel vos prédécesseurs vous l'ont transmise, jouissant de ses bonnes coutumes et antiques franchises. Fermeture de guillemets. L'évêque était embarrassé. Il tremblait, d'un côté, d'irriter des hommes dont il connaissait l'énergie, et de l'autre, de mécontenter son cousin, dont il était l'esclave. Il se contenta de balbutier quelques paroles. Alors les syndics se rendirent au chapitre. Ouverture de guillemets. Obviez à cette iniquité, dirent-ils aux chanoines, vu que cela vous a touché autant que la ville. Fermeture de guillemets. Mais les révérends pères qui avaient de gros bénéfices sur les terres du duc, et qui craignaient de les voir confisqués, entortillèrent des phrases de manière à ce qu'on n'y pouvait rien comprendre. Évêque et chanoine livraient Genève à celui qui prétendait devenir son maître. Le bruit que cette ville était décidément donnée à la Savoie se répandait chaque jour davantage. On en écrivait de tous côtés. Les syndics, émus des lettres qu'ils recevaient, revinrent à l'évêque. Ouverture de guillemets. C'est maintenant la voix et renommée publique, lui dirent-ils. Protestez, monseigneur, contre ces bruits étranges et que cette usurpation, bien que commencée, ne soit pas achevée. Fermeture de guillemets. L'évêque les contempla, puis, fixant en terre ses yeux louches et creux, il garda un stupide silence. Les syndics se retirèrent sans avoir rien obtenu. Que faire? La dernière heure de la liberté semblait avoir sonné pour l'antique république. Les citoyens se rencontraient sans mot dire, et leurs figures pâles, leurs regards mornes, exprimaient seuls leur douleur. Un cri, pourtant, se fit entendre au milieu d'eux. Ouverture de guillemets. Puisque la justice est sans pouvoir, dirent les plus énergiques, nous recourrons à la force. Et si le duc veut entrer dans Genève, il faudra qu'il nous passe sur le corps. Fermeture de guillemets. Mais la plupart étaient inquiets. Connaissant leur faiblesse et la puissance de la Savoie, ils regardaient la résistance comme inutile. L'ancienne Rome avait détruit l'indépendance de beaucoup de peuples. La nouvelle voulait l'imiter. La ville était perdue. Le salut vint d'où nul ne l'aurait attendu. Le sacré collège s'était réuni et les princes de l'Église, revêtus de la pourpre, avaient examiné l'affaire. Enlever à un évêque sa principauté temporelle, quel exemple dangereux pour la papauté même! Qui sait si un jour on ne voudrait pas en faire autant sa sainteté? On eût dit, à les entendre, que le catholicisme s'affaisse et disparaît, s'il ne joint pas à la houlette du berger le sceptre des Césars. Les cardinaux établirent que pour qu'il fût permis à un prince de l'Église d'aliéner sa juridiction temporelle, il fallait, premièrement, que les sujets fussent rebelles à leur prince, deuxièmement, que le prince ne fût pas assez puissant pour les soumettre, troisièmement, qu'on lui en donnât meilleure récompense. La récompense devait-elle être une autre temporalité ou simplement un dédommagement pécuniaire? C'est ce que les documents ne disent pas. Quoi qu'il en soit, le sacré collège refusa son assentiment à la décision du pape et la bulle fut révoquée. Le duc en fut étonné et irrité. Ses conseillers le rassurèrent. Ils lui firent remarquer que, selon la décision des cardinaux, il suffirait d'une révolte pour que la juridiction temporelle fût retirée à l'évêque. Les Genevois qui ont la tête chaude et le verbe haut, disait-il, feront quelque imprudence, au moyen de laquelle on prouvera au sacré collège qu'il leur faut plus fort berger qu'un évêque pour les ranger à leur devoir. À ces représentations, on ajoutera certaines pratiques habiles. Les officiers judiciaires appartenant au parti ducal dresseront contre les citoyens des procès-verbaux obscurs, partiaux, interminables, indéchiffrables. Messieurs les cardinaux de Rome, qui sont l'indolence même, renonceront à lire cet affreux barbouillage. On leur expliquera la chose de vive voix. On leur montrera que le seul moyen de sauver l'évêque est de donner au duc la souveraineté de la ville. Charles se consola et envoya à son cousin de nouvelles instructions. Ouverture de guillemets. Puisque je ne puis avoir l'arbre, lui dit-il, je veux au moins jouir des fruits. Mettez-vous donc, pour me foncer, fournir des fonds, à piller, à boc et à bac. Fermeture de guillemets. Au moyen de ces pillages, on irriterait les Genevois. On les porterait à prendre les armes et l'on parviendrait ainsi à confisquer leur indépendance avec le consentement non seulement du pape, mais encore de tous les cardinaux.